France en liberté. En liberté. 1h30 pour déménager la biologie. Eh bien oui, la biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. En effet, on a toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne le croit. Voilà, c'est ce dont nous allons parler comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30. Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, sur les ondes, la question qui nous anime est : le territoire des animaux constitue-t-il une propriété privée ? En effet, l'espace est une chose étrange. Vaste quand on en parle, il paraît soudain tout petit dès qu'on entre dedans. Entre les délires de l'espace vital des nazis, entre les frontières défendues âprement par des guerres terribles et la construction des murs de la honte, existe-t-il des bornes naturelles du territoire ? Comment les êtres vivants protègent-ils leur intimité ? Le territoire semble quelque chose de tellement commun et de tellement nécessaire qu'il paraît très simple d'en admettre une définition biologique ordinaire. Ce serait un espace exclusif que d'aucuns défendront becs et ongles contre des invasions barbares. Ainsi, au milieu de notre société marchande, la biologie serait la seule à ne pas faire de politique, puisque ce domaine vital serait un espace naturel. Alors, même chez le rossignol, les bornes invisibles du territoire seraient édifiées pour interdire le passage du tout venant. Le territoire servirait aussi à préserver les richesses des ressources. Voilà que de la grenouille au rhinocéros, tous l'affirment. Défendre son territoire est une chose naturelle. Chacun paraît avoir besoin de sauvegarder son petit domaine personnel. À vrai dire, le territoire semble s'établir comme un mur concret entre chacun et tous les autres. Un espace vital et essentiel qu'on se délimiterait et dont on prend possession. Qu'est-ce à dire ? La propriété serait donc si naturelle ? Nous allons nous amuser à y réfléchir. Le pinson et le pic vert vont nous y aider. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission qui va déménager la biologie pendant 1h30 avec la collaboration de Siona et de Monica Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette notion si particulière et, ma foi, si commune qu'on considère comme existante dans la nature, le territoire. Avec cette question singulière, on va pouvoir décliner, la propriété est-elle si naturelle que cela ? Nous allons, dans une première partie, énoncer les notions biologiques générales qui définissent ce qu'est un territoire. Puis, dans une seconde partie, plus critique, nous discuterons de la validité de ces concepts théoriques. Entre les deux, nous évoquerons un travail de recherche original retenu comme la publication scientifique, cette actualité du mois. Voilà donc que les oiseaux chantent. Et évidemment, si les oiseaux chantent, ce n'est pas pour embellir le printemps ou pour nous faire plaisir. En dépit de la beauté des sons des oiseaux, le principe même du chant des oiseaux, c'est d'essayer de créer par leur présence un territoire. Du moins, c'est ce qu'on nous raconte. Affirmer sa présence, c'est évidemment d'abord se défendre dans l'espace et dans le temps, en délimitant un espace, une région, dans lequel, évidemment, tout sera possible pour l'animal. Si chez les oiseaux, évidemment, ce territoire est principalement vocal, c'est parce que les animaux, ces animaux possèdent en propre un organe spécifique qu'on appelle la syrinx, qui est situé au carrefour des bronches et qui permet de moduler des sons extrêmement complexes et, ma foi, très très joyeux. Néanmoins, à chaque fois qu'un oiseau chante, il faut tenir compte d'un phénomène particulier, un phénomène hormonal, qui l'envahit complètement et qu'on appelle la testostérone. Alors voilà qui est singulier, parce que la testostérone, c'est très précisément une hormone qui est en lien direct avec le comportement agressif. Autant dire tout de suite qu'on ne peut que penser à une chose simple, c'est qu'il existerait une relation étroite entre l'agressivité et la défense du territoire. Alors évidemment, le territoire, c'est aussi tout ce qu'on appelle l'espace-temps des activités. Si on préfère, les animaux vont se déplacer, évidemment, et leurs déplacements vont présenter tout un ensemble de sinuosités. Les parcours vont être arrêtés par des obstacles. Il va aussi exister des arrêts plus prolongés, parce que l'animal va avoir des occupations provisoires. Manger, dormir, s'installer, se gratter, faire son petit ménage. Et à chaque fois, en fait, on s'aperçoit, en étudiant les animaux, que l'espace-temps des activités est quelque chose d'extraordinairement structuré. En fait, à chaque fois que l'animal intervient dans son environnement, il va évidemment tout d'abord effectuer des déplacements d'une zone à l'autre en essayant de se protéger le long de zones abri ou en suivant des itinéraires particuliers qui vont être plus ou moins protégés pour lui. Chacune de ces activités va ensuite se délimiter sur des endroits particuliers, tout à fait intéressants, qui vont permettre à l'animal de stationner, de pouvoir manger, de pouvoir vivre. Enfin bref, c'est à cet endroit, dans ces endroits particuliers, que l'animal va décréter qu'il a ici besoin d'activités tout à fait particulières. Ce sont ces zones d'activité spécifiques reliées par des petits parcours qu'on appelle le territoire.
6 mai 1915. Pendant une passe d'artillerie, quelques obus tombent sur le village. Nos 75 et nos 50 répondent par coups isolés de 50 et par salve de 3 à 4 coups de 75. Un pinson sur le toit de la maisonnette en face de nous n'interrompt pas un instant son chant monotone et bruyant. Des verdiers chantent leur di-di-di. Une hirondelle mâle, posée à côté de sa femelle sur le même toit que le pinson, gazouille sans s'arrêter. Arrivée ou départ, leurs sons sont indifférents. Les moineaux piaillent pendant que le bruit des 75 déchire l'air. Le rossignol de muraille fait entendre sa note triste. Un 77 allemand tombe à une cinquantaine de mètres du bureau. Un merle chante dans le lointain. Une hippolaïse polyglotte chante sous le départ des coups de 90. Je remarque pourtant qu'une interruption de 2 ou 3 secondes a lieu aussitôt après la détonation, mais pas toujours. Par contre, une fauvette des jardins ne suspense pas sa petite trophe, commencée par un coup de 90. Ces intermittences dans le chant semblent dépendre, pour leur longueur, de la reprise du chant par une quelconque des espèces. Aussi, lorsque la fauvette des jardins, par exemple, continue à chanter sans s'interrompre, le temps de repos dans le voisinage est à peine perceptible. Le verdier, lui, semble ne faire aucune attention au coup de canon de 90. Pendant une salve de 75, 3 coups précédés d'un coup du même, le verdier chante et le moineau piaille. Immédiatement après, sifflement du merle pendant 30 secondes environ et cri d'appel du rossignol de muraille. 7 mai. Dans le bois, sous la ligne de feu, les ramiers, les tourterelles, celles-ci vues pour la première fois en vol nuptial, comme de coutume. 8 mai. 50 coups de canon tirés à la suite par nos 90. Aucun arrêt dans les champs. La fauvette des jardins, le pinson, le moineau ne s'interrompent pas un seul instant. Peu d'autres champs à cette heure-ci. À 4 heures, bombardement assez intense. Les obus tombent partout autour de notre maison. Le bruangeau non plus n'est aucunement affolé, mais il semble que le rossignol ait délaissé un peu son gîte. 9 mai, vers 5 heures du matin, violente détonation remplissant toute la vallée, nos 120 probablement. Pas d'effet apparent sur le volume du chant matinal. 10 mai, l'hypoglaïs polyglotte chante d'abondance. Hier, les petites elfes, que sont les pouillots siffleurs, chantonnent partout dans le bois, se répondent à travers la vallée. 11 mai. Promenade à 6 heures dans le petit bois sur le bord duquel est dissimulée la batterie de 90. Son tir est presque nul aujourd'hui, mais par moments, le bruit des détonations emplit toute la vallée. Un couple de ramiers est là, juste au-dessus des canons. Un pipite des arbres chante en descente, les ailes ouvertes sur les contours du petit vallon. Un pic vert lance son cri, un peu en arrière dans le bois. Jacques Delamain, 1928. Pourquoi les oiseaux chantent ? Journal d'un ornithologue.
Et voilà. On se rend compte ainsi que même en pleine guerre de 14-18, les ornithologues pouvaient écouter des oiseaux qui ne s'arrêtaient jamais de chanter, qui ne s'arrêtaient jamais de défendre un territoire apparemment important pour eux. Si la défense territoriale est une chose si sérieuse, on pourrait effectivement penser qu'elle est naturellement biologique et que finalement ces descriptions correspondent à des réalités tout à fait sensibles. Les hommes étaient en train de se battre pour un territoire, en train de se battre pour un espace vital, et dans le même temps, chaque oiseau continuait lui aussi sa bataille perpétuelle, essayait de défendre son endroit bien à lui. Je ne sais pas, cher lecteur, si tu imagines cette ambiance, mais on s'aperçoit fort bien que nous sommes ici dans une affaire de guerre. Pourtant, au départ, les activités semblent tout à fait simples. Les canards, par exemple, à la passée, vont aller d'une zone de nourrissage à leur zone de tranquillité où ils vont pouvoir s'endormir. La jeunette va suivre des parcours sinueux pour aller chercher la nourriture là où elle peut la trouver. À chaque fois, l'organisation territoriale semble relier des petits chemins, plus ou moins balisés, à des zones qui vont être exploitées, comme disent les biologistes, de manière assidue. On appelle ces zones des secteurs à haute valeur trophique. C'est en effet sur ces secteurs particuliers que l'animal va consommer, que l'animal va manger ses proies ou va manger sa nourriture. Alors, quand on étudie le déplacement des animaux à partir de méthodologies particulières, comme par exemple le radio tracking, qui consiste à placer un petit émetteur radio sur le dos ou au cou d'un animal et de suivre soit par satellite, soit à la main, les différents déplacements, on a une série de petites localisations qui font comme des petits points sur la carte et qui nous permettent de nous rendre compte que certaines zones sont assidûment exploitées, ce sont en général ces zones à haute valeur trophique, et puis qu'elles sont reliées par des petits points beaucoup plus nuancés, beaucoup moins soutenus, qui parcourent en fait tous ces secteurs de l'un à l'autre. En fait, ce sont des zones de passage, des zones particulières favorables pour favoriser le passage. Donc, en fait, le territoire, dans la tête de l'animal, ça consiste d'abord à établir une coïncidence spatio-temporelle, c'est-à-dire d'aller dans un endroit, dans un espace donné, à un moment qui lui est favorable. Ça ne servirait à rien aux singes d'être dans un endroit pour manger des fruits s'ils ne sont pas mûrs, ça ne servirait à rien aux rats musqués d'aller consommer des moules si elles ne sont pas disponibles, et ça ne servirait à rien aux putois d'aller manger des grenouilles si ce jour-là, les grenouilles ont encore décidé de déserter les lieux. Bref, on voit très très vite que ce système territorial est en fait quelque chose qui peut être relativement vaste, relativement grand, et qui dans le même temps peut être parcouru de tas de zones apparemment inutiles. Par exemple, la loutre d'Europe, c'est un animal que tu connais peut-être, l'auditeur, puisque tu as pu te promener dans l'ouest de la France ou dans le Massif central, eh bien ces loutres d'Europe peuvent avoir un territoire qui excède parfois la vingtaine de kilomètres carrés. Elles ont évidemment des exigences d'habitat de qualité, mais ce sont des animaux qui vont évidemment rester sur des domaines relativement linéaires, puisqu'à chaque fois, elles vont suivre le cours de la rivière, et que dans les zones où les poissons sont présents, elles vont pouvoir les consommer. Dans les autres zones, évidemment, elles ne vont faire que passer relativement vite. Ce qu'il va compter, c'est peut-être plutôt d'obtenir une zone de tranquillité où l'animal va pouvoir se mettre à se reposer ou à dormir. Alors, en face de cette description des déplacements réels, qu'est-ce que ça peut être que l'exclusion territoriale ? Tel qu'on nous en parle, l'animal va exploiter tous les moyens possibles et avec sa testostérone en tête pour essayer de dissuader l'intervention d'un autre animal. On voit très bien qu'on est en train de définir une espèce de propriété privée, ce qu'on va appeler en biologie l'exclusion territoriale. Ainsi, les grèbes, ces grands grèbes huppés qui sont sur les plans d'eau, peuvent se battre à un moment donné pour définir un tout petit carré de plan d'eau sur lequel ils vont parader. On sait par exemple que le guépard va uriner à gauche et à droite et que, en fait, ce sont des glandes odorifères qui vont permettre de déposer dans ses urines des éléments marquants qui vont servir de dépôt olfactif et qui vont servir à écarter, si possible, les autres du même domaine. En fait, à chaque fois, le système apparent sait qu'il y a une exclusion des autres.
Si les oiseaux chantent, c'est évidemment d'abord parce qu'il faut essayer d'écarter les autres individus d'un espace qui va être défini par, ici, leur vocalisation. Évidemment, on pourrait se dire, tout ça, ce sont des histoires d'animaux. La propriété privée est encore très loin de ça. Et pourtant, si on regarde la dispersion dans l'espace des gens, par exemple, sur une plage, eh bien, vous allez voir qu'ils sont tous posés avec leurs petites serviettes, leurs petits paniers, etc. Et vont se délimiter en eux-mêmes un petit territoire particulier dans lequel les autres ne sont pas forcément les bienvenus. C'est un peu la même chose si on pense au sens interdit qui orne parfois la chambre des adolescents et qui essaye effectivement de dissuader les parents d'y intervenir. Eh bien, si vous regardez une colonie de mouettes ou une colonie de footbassants, vous verrez ainsi des individus disposés dans l'espace de telle manière que chacun semble essayer d'empêcher les autres d'intervenir sur son petit bout d'espace à lui. Tout se passe comme s'il existait une espèce de zone autour de chacun d'entre nous dans lequel on essaye d'exclure le maximum de personnes. En fait, c'est une appropriation de l'espace qui déterminerait une espèce de distance publique dans lequel, évidemment, les passants, les autres personnes, seraient fortement malvenus. Nous sommes donc vraiment dans une ambiance où l'intime va se mélanger au social, mais il y a encore un autre phénomène qui va intervenir entre l'intime et le social. C'est évidemment que si les oiseaux chantent, c'est aussi pour attirer la femelle. Et là, évidemment, tu te dis, lecteur audacieux, eh bien oui, le territoire, il peut aussi servir à entretenir d'excellentes relations avec certains membres de notre espèce, avec certains membres de notre groupe. Bref, ce territoire, ce terrain, c'est aussi le nôtre.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. Voice coming chanting and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Eh bien oui, ce n'était pas du country. Il s'agissait de Woody Guthrie, c'est donc du hillbilly. Woody Guthrie, Descend. Alors, nous continuons sur notre opération territoriale. Ce dont nous nous rendons compte maintenant, c'est que non seulement notre territoire présenté va avoir une option sociale, mais qu'il est aussi éminemment sexuel. Chère auditrice, cher auditeur, vous avez maintenant commencé à comprendre combien la biologie paraît définir des éléments qui sont finalement naturels. En s'appuyant sur cette naturalité, sommes-nous réellement en présence de quelque chose qui est inamovible et donc finalement nous aurions tiré la propriété privée? Ou bien au contraire, est-ce que c'est plutôt parce que dans la tête des biologistes, la propriété privée est une évidence, qu'ils l'ont découvert dans la nature? Reprenons. Le territoire a donc une vocation sociale qui permet d'abord d'exclure les autres. Mais ce dont on veut exclure, ce qu'on veut exclure en priorité, ce sont donc d'abord les autres du même sexe. On va se rendre compte que le territoire est une affaire de mâles. Cette vocation sexuelle est d'abord annoncée à travers une option dite pré-copulatoire. On est biologiste, donc on utilise ces termes-là. C'est avant une potentielle copulation. Il s'agit d'écarter les rivaux. Cette option pré-copulatoire qui permet d'écarter les rivaux, d'exclure les autres de ce système, chez les oiseaux, se passe évidemment par le chant. C'est ce qu'on entend par exemple quand notre ami le bruant des roseaux se met à lancer sa note un peu partout dans les roseaux. C'est évidemment d'abord, a priori, pour écarter les rivaux. Cet écartement des rivaux peut se faire d'une manière beaucoup plus directe. Si vous prenez par exemple l'habitude qu'a le cerf élaf de taper avec ses bois contre les autres, il va tout de suite s'en prendre aux autres, foncer dessus, et on connaît aussi l'incroyable performance que peut avoir un petit insecte qu'on appelle le cerf-volant. Vous savez, c'est ce petit insecte noir que vous trouvez de temps en temps en forêt et qui possède ses mandibules hypertrophiées, ses énormes mandibules. On aura l'occasion de revenir sur ces problématiques particulières de la formation des organes et d'où on peut tirer toutes les explications de ces hypertrophies. Mais donc, cet animal possède des mandibules absolument hypertrophiées, c'est un petit scarabée noir, et ce petit scarabée noir va attraper un autre scarabée pour l'écarter de son propre chemin et pour essayer de rester le seul animal présent dans cet espace particulier. On voit ici que, a priori, l'apparence de la vocation sexuelle est bien d'abord d'empêcher un rival d'intervenir. Mais il existe une seconde option. Cette seconde option, disent les biologistes, c'est l'option post-copulatoire. L'objectif est d'interdire l'accès du territoire aux femelles. Pour cela, il faut la définir comme une propriété privée. Il faut la définir comme un secteur où les autres ne viendront pas. Alors chez les libellules, par exemple, et les petits agrillons rouges, la méthode est toute simple. Le mâle va tout simplement s'accrocher derrière la tête de la femelle, et en maintenant la femelle de cette manière-là, il va évidemment l'empêcher d'aller voir ailleurs. On va dire que si un autre mâle passait dans le secteur, de toute façon, la femelle étant en quelque sorte prisonnière du mâle, nous sommes ici dans une attitude très naturelle, très simple, pour empêcher un autre mâle d'intervenir. On verra que ce n'est pas toujours aussi simple et que ce n'est pas toujours le cas. Mais pour l'instant, restons dans les grandes normes que la biologie nous définit. L'autre possibilité d'option post-copulatoire, eh bien, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez nombre d'antilopes. Que se passe-t-il ? Eh bien, le mâle va réunir son troupeau, va réunir le groupe des femelles, ou va, dans la réalité, c'est plutôt lui qui va les voir que lui qui les réunit, mais c'est pas très grave. Admettons que nous restons pour l'instant dans la définition biologique traditionnelle. Et donc ce mâle va aller sur le terrain des femelles, et là, il va tourner autour, il va les surveiller, il va les sentir, les renifler, pour vérifier, un, qu'elles sont éventuellement disponibles pour son activité sexuelle préférée, mais qu'en même temps, évidemment, aucun autre mâle ne passe dans le secteur. Et si un mâle tente évidemment de venir s'amuser avec les femelles, eh bien, tout le monde s'y attend, notre grand mâle, avec toute sa testostérone qui le remplit, va l'évincer de ce territoire inamovible dans lequel seul lui a le droit d'être présent. Nous voilà donc vraiment ici au centre de ce qu'on pourrait penser être une définition territoriale absolue. Le territoire est une zone d'exclusion de tous les autres. Seulement voilà, si cet espace d'exclusion présente apparemment un propriétaire. Au bout du compte, on pourrait évidemment s'intéresser au mécanisme qui va définir cette propriété particulière. Alors, les ornithologues et d'autres biologistes ont essayé de définir ce qu'on appelle une typologie des territoires. C'est-à-dire qu'ils ont conféré à un espace défendu par un animal une espèce de définition plus ou moins simple qui leur permette de comprendre comment les choses vont se mettre en place. On parle par exemple d'un type A lorsque l'oiseau va avoir son nid au milieu d'un espace de chasse. En quelque sorte, le territoire de type A, c'est un peu votre maison. Vous avez votre cuisine au centre, ou là où vous mangez, la chambre pas très loin, parce que c'est quand même, n'oubliez pas, une vocation sexuelle qu'on va retrouver derrière ce territoire. Et puis, autour de tout ça, il y a une espèce de jardin défini par des petits murets, un peu comme on peut le voir des fois autour des grandes villes. Le territoire typique, par exemple, c'est celui de la bouscarde d'Ossétie, celui d'animaux comme l'accenteur mouchet. L'oiseau va avoir un petit espace de 200-300 mètres carrés qu'il va défendre contre toute intrusion et contre toute venue. Toujours remarquons bien qu'ici, ce qui définit le territoire, c'est le mâle. Apparemment, d'un point de vue évolutif, c'est lui qui a ici le rôle essentiel. Nous restons toujours, évidemment, dans tous les a priori que la biologie nous glisse aux oreilles. Continuons. Le territoire de type B. Ah tiens, ça veut dire que le territoire déjà peut varier. C'est étonnant. Comment un territoire pourrait-il ne pas toujours être de type A ?
Eh bien, tout simplement, quand l'animal ne défend pas vraiment une zone alimentaire, mais va définir une zone autour de sa chambre et de son lit. En fait, c'est un petit peu plus grand que ça. Par exemple, un oiseau américain qu'on appelle le carouge à épaulettes, parce qu'il a de magnifiques épaulettes rouges, va s'installer dans des roseaux et il va définir une grande zone de roseaux, 20, 30, parfois 200 mètres carrés, autour de laquelle, évidemment, il va patrouiller et éviter qu'une intrusion se fasse. C'est au milieu de cet ensemble de roseaux que va se situer son lit. En revanche, évidemment, il va aller manger ailleurs. Et là, sur les aires de nourrissage, plus de territoire. Il mange comme il veut avec les autres, il n'y a plus de problème. On retrouve la même chose chez les rainettes, ces petites grenouilles. Ou encore, on va retrouver exactement la même chose, par exemple, avec la mésange à moustache dans les roseaux français. Et puis, il y a encore deux types de territoires. Le type C. Alors celui-là, il est très très facile à comprendre. Le territoire de type C, c'est la colonie. C'est-à-dire que les oiseaux ne vont défendre que l'espace très petit autour du nid. On a le nid, par exemple, de la mouette rieuse. Et puis autour de la mouette rieuse, eh bien, si elle est capable de donner un coup de bec, le voisin ne va pas s'installer. Mais évidemment, il faut qu'elle donne un coup de bec sans bouger de son nid. C'est typiquement le nid qu'on voit chez les oiseaux de mer, comme par exemple les footbassans qui vont s'étager, chacun sur son petit nid pour couver, et à distance de tout ce qui peut se passer pour les autres. C'est-à-dire que là, ce qui construit l'espace vital, c'est juste la distance au bec. Quelque chose d'encore très très étonnant est donc en train de se passer. Voilà que notre propriété privée peut se réduire à l'espace de la chambre.
Mais si le forgeron, le charron, tout industriel en un mot, a droit aux produits pour les instruments qu'il fournit, et si la terre est un instrument de production, pourquoi cet instrument ne vaudrait-il pas à son propriétaire, vrai ou supposé, une part dans les produits, comme cela a lieu pour les fabricants de charrues et de voitures? C'est ici le nœud de l'énigme, l'arcane de la propriété, qu'il est essentiel de bien démêler si l'on veut comprendre quelque chose aux étranges effets du droit domaine. L'ouvrier qui fabrique ou qui répare les instruments du cultivateur en reçoit le prix une fois, soit au moment de la livraison, soit en plusieurs paiements, et ce prix, une fois payé à l'ouvrier, les outils qu'il a livrés ne lui appartiennent plus. Jamais il ne réclame double salaire pour un même outil, une même réparation, si tous les ans, il partage avec le fermier, c'est que tous les ans, il fait quelque chose pour le fermier. Le propriétaire, au rebours, ne cède rien de son instrument. Éternellement, il s'en fait payer, éternellement, il le conserve. En effet, le loyer que perçoit le propriétaire n'a pas pour objet les frais d'entretien et de réparation de l'instrument. Ces frais demeurent à la charge de celui qui loue et ne regardent le propriétaire que comme intéressé à la conservation de la chose. S'il se charge d'y pourvoir, il a soin de se faire rembourser de ses avances. Ce loyer ne représente pas non plus le produit de l'instrument, puisque l'instrument par lui-même ne produit rien. Nous l'avons vu tout à l'heure et nous le verrons mieux encore par les conséquences. Enfin, ce loyer ne représente pas la participation du propriétaire dans la production, puisque cette participation ne pourrait consister, comme celle du forgeron et du charron, que dans la cession de tout ou de partie de son instrument, auquel cas il cesserait d'être propriétaire, ce qui impliquerait contradiction de l'idée de propriété. Donc, entre le propriétaire et le fermier, il n'y a point échange de valeur ni de service. Donc, ainsi que nous l'avons dit dans l'axiome, le fermage est une véritable aubaine, une extorsion fondée uniquement sur la fraude et la violence d'une part, sur la faiblesse et l'ignorance de l'autre. Les produits, disent les économistes, ne s'achètent que par des produits. Cet aphorisme est la condamnation de la propriété. Le propriétaire ne produisant ni par lui-même, ni par son instrument, et recevant des produits en échange de rien, est un parasite ou un larron. Donc, si la propriété ne peut exister que comme droit, la propriété est impossible. Pierre-Joseph Proudhon, 1840, qu'est-ce que la propriété ?
Avec Proudhon, nous nous rendons bien compte que les choses ne sont donc pas si simples. En effet, nous sommes ici en présence d'un mécanisme particulier, celui qu'on va baptiser la propriété privée. Mais restons toujours dans notre affaire de la biologie. Le territoire est-il si proche de la propriété privée, puisque le territoire serait naturel, la propriété serait donc fondée? C'est une question évidemment que la biologie a tendance à ignorer en tant que telle, puisqu'elle nous fait quasiment croire que les choses sont simples. Ici, nous allons retrouver tout ce qu'on peut baptiser idéologie dans les mécanismes biologiques. Revenons. Nous avons vu que les territoires pouvaient être de plusieurs types. Trois types pour l'instant, A, B, C, D. Le D, on va l'arriver maintenant, le quatrième type. Ce quatrième type du territoire, c'est en fait une distribution spatiale tout à fait particulière. Là, en fait, le territoire se réduit à rien. Les animaux vont disposer d'une arène, et sur cette arène, les animaux vont venir danser, chanter, bref, se montrer. C'est d'une manière caractéristique le territoire des combattants variés, par exemple ces petits oiseaux limicoles de nos marais, ou encore d'animaux comme le grand tétras. Alors, chez les grands tétras, ce sont des coqs de bruyère, l'animal dominant, en quelque sorte, sur cette aire, va se situer au centre d'une zone particulière qu'on appelle le lek. Ça vient d'un mot danois qui veut dire la zone de jeu. Et sur cette arène particulière, sur ce lek, l'animal, qui va être au centre, va réussir à assurer 80% des copulations. Rien d'autre ne se passe sur le lek que la danse. Les autres mâles vont tourner autour du lek en espérant avoir petit à petit une position centrale. Et là, on voit que le territoire s'est réduit à la simple parade. Alors c'est assez étonnant parce que pour les biologistes, il n'y a aucun problème. Le territoire de type D, c'est le lek. Bien qu'en fait, le nid soit ailleurs, la nourriture soit ailleurs, les combats même ont lieu ailleurs, il ne s'agit ici plus que d'une seule zone de parade. Nous sommes donc vraiment dans une histoire tout à fait étonnante, puisque dans cette ambiance particulière, évidemment, le territoire semble avoir complètement varié. Mais il n'y a pas qu'avec le grand tétras ou les chevaliers combattants que le territoire varie. On peut repartir, par exemple, de cet exemple du héron. Alors, vous connaissez tous le héron, ce bel oiseau gris, le héron cendré, qu'on retrouve sur nos marais et sur nos mares. Eh bien, lorsqu'il va être sur une zone particulière de consommation, il ne présente aucune envie territoriale. Il ne défend pas de ressources. Chacun va manger tranquillement. En revanche, sur certaines zones, lorsque la nourriture est faible, là, il peut commencer à se montrer un peu jaloux. Et puis, enfin, encore aux variations, l'animal va nicher en colonie, dans lequel les limites territoriales restent très très imprécises. Si on analyse bien tout ça, on se rend compte qu'en fait, le territoire est une chose tellement variable qu'il est bien complexe de savoir à quoi il ressemble. Et puis, il y a d'autres mécanismes qui interviennent et qui viennent tout mélanger. Par exemple, un chercheur dans les années 1948, Batman, a inventé une notion qu'on appelle le gradient de Batman. Le gradient de Batman nous dit quelque chose de simple. Les mâles veulent un territoire, mais ils ne peuvent s'emparer que d'une certaine quantité, que d'une certaine taille de territoire. En général, ils peuvent chanter sur, par exemple, si on prend l'accenteur mouchet, sur une zone qui fait entre 3000 et 5000 m². Les femelles, pour se nourrir, ont besoin d'au moins 2000 m². Donc, a priori, le mâle peut avoir un territoire qui englobe celui des femelles. Mais voilà, quand il arrive au printemps, les femelles ne sont pas encore là. Et son territoire, il va être obligé de le faire glisser. Le problème est d'importance, parce que à force de faire glisser son territoire, selon qu'il ait beaucoup de ressources, eh bien, il pourra englober deux ou trois femelles. Si au contraire, il n'y a pas du tout de ressources, au mieux, il pourra englober le territoire d'une femelle. Voire, au pire, deux mâles auraient qu'une seule femelle. Alors je dis au pire, parce qu'évidemment, dans l'esprit des biologistes, cette hypothèse possible que plusieurs mâles puissent avoir une seule femelle, ne puissent disposer que d'une copulation avec une seule femelle, ça apparaît évidemment comme un phénomène pas du tout intéressant. On voit donc ici combien le gradient de Batman vient tout perturber dans notre affaire. Et puis, si on n'arrive pas à bien comprendre à quoi ça sert un territoire, on va essayer de faire des hypothèses sur au moins ce qu'est la taille du territoire. Alors là, il y a plusieurs hypothèses qui se sont construites. Tout d'abord, la première hypothèse, c'est celle de l'allocation des ressources. La prédiction, c'est que la taille du territoire est corrélée à la densité des ressources. Ça paraît simple. S'il y a beaucoup à manger, le territoire sera grand. S'il n'y a pas beaucoup à manger, le territoire sera petit. On peut même en tirer une équation. Selon que la taille de l'animal est petite ou grande, si l'animal est petit, son territoire sera plus petit que si l'animal est grand, etc. Cette hypothèse évidemment centrale et simple est quand même rarement présente dans la nature. En fait, il a fallu en tirer d'autres hypothèses. La seconde hypothèse, c'est l'hypothèse de la dispersion des ressources. Pourquoi ? Eh bien parce que si les ressources sont très dispersées, mais qu'en même temps elles sont groupées dans des petits patchs, qui sont eux-mêmes très éloignés les uns des autres, eh bien évidemment l'animal risque d'avoir un territoire beaucoup plus vaste que simplement la quantité des ressources qu'il recouvre. On va donc avoir une dispersion qui va dépendre des patchs de ressources, d'où l'hypothèse de la dispersion des ressources. Et puis enfin, une autre hypothèse est intervenue, c'est l'hypothèse que les animaux cherchaient tout simplement à avoir le plus grand territoire possible. Là, la prédiction est simple, la taille du territoire ne va pas dépendre des ressources en tant que telles, ça va dépendre de la capacité de l'individu à réussir à s'imposer dans un domaine donné. On voit ici combien la notion même de territoire chez les biologistes est une question compliquée. Si à ça on ajoute que très souvent le territoire confine avec des idées comme celle de la dominance, comme celle de la hiérarchie, on s'aperçoit que l'exclusion n'est pas toujours spatiale, mais qu'elle est aussi sociale. Cette exclusion sociale qu'on appelle la dominance chez les animaux, l'animal dominant, l'animal dominé, eh bien, nous montre que le territoire est souvent pensé comme un marqueur de dominance. Qu'est-il de toutes ces histoires-là ? Est-ce que finalement nous sommes si proches de ces notions dans la nature qu'on pourrait comprendre l'espace naturel qui existerait dans la propriété privée chez les êtres humains ? Voilà une question étrange sur laquelle nous allons continuer à nous pencher pendant encore un certain temps. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste.
Is falling for me. A man I know is acting like a fool while I remain as cool as ice. This man I know keeps calling for me. This man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Such trying times. Such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times. Such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. This man I knew has given it up. This man I knew has waited far too long and suddenly been strong enough to break the tie. This man I knew is living it up. This man I knew has buried all his past and found true love at last. But where the deuce am I? Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Why do we live in such exasperating times?
C'était Marlène Dietrich. Eh bien, évidemment, nous allons pouvoir continuer maintenant cette émission pour essayer de partir sur quelque chose d'un peu différent, ce qu'est la publication du jour.
Donc là, nous avons un extrait d'une actualité datant du 30 janvier 2013 du Monde. Trois éléphants pygmées de Bornéo, une espèce en danger en voie de disparition, ont à nouveau été retrouvés morts dans une forêt de Malaisie. Donc le 30 janvier, ce qui porte à 14 éléphants de pachyderme morts ces dernières semaines dans des circonstances mystérieuses. En fait, il apparaît que les animaux ont probablement été empoisonnés, comme l'ont indiqué des responsables de la faune sauvage. Les carcasses des éléphants ont été découvertes à proximité les unes des autres dans la réserve du Gunung Rara Forest.
Donc à Bornéo.
Donc à Bornéo, tout à fait.
Bien, eh bien, cette information est évidemment terrible. Elle arrive juste au même moment où une publication scientifique de bon niveau, qui est parue dans une revue scientifique qui s'appelle Les Plus One, vient de publier sur le déplacement des éléphants de Bornéo et sur leur territoire. Alors évidemment, cette étude a été faite à partir d'un système dit de radiotélémétrie. L'animal était fiché, en quelque sorte, par un système satellite qui permettait de savoir quels étaient les déplacements. Il s'agit principalement de femelles. Je rappelle que l'éléphant de Bornéo est celui qu'on appelle aussi parfois l'éléphant pygmée, bien qu'il soit pas si petit. Hein, c'est un animal qui est un peu plus petit que l'éléphant d'Asie. On ne sait pas trop d'où il est arrivé d'ailleurs. Hein, c'est une origine extraordinairement controversée. Il y a plusieurs hypothèses. Là, les plus récentes nous disent que ce sont probablement des espèces qui étaient déjà présentes sur cette île et qui seraient arrivées au moment où les terres auraient été en fait en liaison les unes aux autres. Hein, vous savez que le mouvement des continents a été tel que les terrains, la mer a repénétré dans les différents bras de mer et donc ont petit à petit isolé l'île de Bornéo. Cette hypothèse donc justifierait qu'on est vraiment en présence d'une sous-espèce particulière, et en gros on pourrait dire qu'elle est assez commune depuis les années 50, mais il y a pas mal de contestations sur cette hypothèse, avec pas mal de chercheurs qui ont notamment travaillé sur l'ADN mitochondrial, et qui prétendent que ces éléphants de Bornéo ont été en fait beaucoup plus récemment établis, peut-être à partir d'animaux domestiques. Puis encore d'autres publications, en 2003 par exemple, il y a un chercheur qui a développé que cet animal, cette sous-espèce, serait isolée des autres éléphants depuis au moins 18 000 ans, toujours lorsque les ponts qui reliaient les îles de la Sonde au continent asiatique ont disparu. Avec la montée des eaux. Bref, on ne sait pas trop finalement si ces éléphants existent en tant que sous-espèce, s'ils existent en tant que proche espèce, etc. Toutes ces définitions, nous en reparlerons dans une autre prochaine émission de Science en Liberté, parce qu'évidemment, ce sont des notions importantes, si les espèces existent, si elles n'existent pas vraiment. Mais revenons maintenant sur cette question de leur territoire et de leur déplacement. Évidemment, l'auteur nous parle directement, s'appelle Home Range, le territoire en anglais, il nous dicte directement cette hypothèse que le territoire est défini comme l'étendue des locations qui sont couvertes par un animal pour l'année. On voit donc ici qu'il n'y a aucune connotation ni sexuelle, ni d'un seul coup de connotation exclusive. Voilà qu'avec un animal, évidemment, on pourrait ne plus comprendre pourquoi les oiseaux chantent. On s'est posé depuis quelque temps une question qui était quand même assez importante. À quoi ça peut servir un territoire? On a vu que l'objectif que les biologistes définissaient, c'est que c'était un espace d'exclusion, avec un propriétaire dominant et des subordonnés qui étaient exclus. Et voilà, d'un seul coup, que le territoire chez les éléphants ne serait plus tout à fait le même. En fait, il faut bien penser que les animaux étudiés sont peu nombreux. Il y en a juste 5 femelles qui ont été suivies. Ce sont donc des femelles. On n'est plus tout à fait dans la même notion, nous diront les biologistes. Comme ce n'est pas des mâles, c'est un peu logique que ça soit moins agressif. Et puis finalement, l'animal a utilisé on a utilisé en fait un suivi des déplacements. Donc les déplacements ont été mesurés. On a fait ce qu'on appelle le polygone convexe minimum. Et puis des moyennes harmoniques, en fait, tout un ensemble de mesures particulières qui permettent de dire que les animaux vont utiliser un territoire de 250 à 400 km². Mais en forêt, car dès qu'ils sont situés dans des zones qui sont déforestées, dans des zones différentes, eh bien le territoire a grandi à 600 km². On voit donc que nous sommes bien dans une ambiance particulière où le paysage a une influence considérable sur ce qu'on appelle être la définition du territoire. Nous sommes donc vraiment dans quelque chose qui est fluctuant et qui est étonnant. Et c'est ce que les éléphants nous racontent. À partir de cette chose... Ouh là là. À partir de cet élément particulier, on voit bien que la fragmentation des domaines vitaux va avoir une importance capitale sur ce qu'on peut définir. Mais au bout du compte, est-ce qu'on est en train de parler d'un domaine vital, c'est-à-dire d'une zone dans laquelle les individus on trouve assez de ressources pour survivre, ou est-ce qu'on est en train de parler d'une zone exclusive, une espèce de propriété privée, dans laquelle les animaux pourraient réussir leur reproduction? On s'aperçoit ici que, chez les anglo-saxons et chez les français, la définition particulière du territoire va sans arrêt osciller entre un point de vue très social, un point de vue très sexuel, et même parfois, vous le voyez, simplement définir quel est l'espace occupé. Voilà qui est bien étonnant, et donc il va bien falloir que nous continuions à nous interroger sur cette présence particulière de ce mot territoire, de cette hypothèse naturelle que le territoire serait tellement naturel aux individus qu'on aurait en quelque sorte une identité propre à partir de ce propre territoire.
êtes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe, Science en Liberté. Nous avons donc vu que les biologistes traitaient la notion de territoire comme si elle était finalement une propriété naturelle. Mais voilà Thierry, le territoire des animaux ne paraît pas avoir une fonction simple. Est-il au moins permanent ou stable ?
Alors en effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa fonction n'est pas du tout clarifiée. Et en outre, évidemment, la question qui se pose, c'est de voir si on peut vraiment croire à ce concept de propriété privée que les biologistes appliquent à la nature du territoire, à travers l'hypothèse, bien sûr, que cette exclusion territoriale est importante. Et comme tu poses la question, c'est évidemment important de comprendre que le territoire serait au moins quelque chose de stable. Alors on l'a vu avec nos éléphants tout à l'heure, finalement, le territoire peut varier de taille selon que le domaine qu'il recouvre est, on va dire, sympathique, intéressant pour l'animal, ou au contraire fragmenté, comme c'est le cas par exemple de la forêt primitive à Bornéo pour notre éléphant. Mais même chez les lézards verts, on va retrouver les mêmes mécanismes à peu près complexes. En fait, au départ, les lézards verts que vous connaissez probablement, dès que vous vous promenez en forêt, là, vous entendez ce petit bruissement qui intervient dans la forêt, dans le buisson.
Oui.
Hein, toutes les personnes qui se sont promenées. Voilà.
Il est très discret quand même.
Mais... à chaque fois qu'on se promène en forêt, on se dit, tiens, il y a un serpent qui est parti. Non, ce n'est pas un serpent, c'est un lézard vert. Eh bien, ce petit lézard vert qui vient se chauffer au soleil est très casanier. Et si vous restez 10 minutes au même endroit, sans faire de bruit, hein, en vous faisant très discret, parce qu'il est très sensible aux vibrations, on verra l'animal revenir se chauffer quasiment à 2-3 cm près sur la même place, à la même place que l'endroit qu'il vient juste de quitter. Et une fois installé, évidemment, il va garder son petit espace à lui pendant plusieurs semaines. Alors, en fait, ce territoire est assez compliqué chez les lézards, parce qu'il va dépendre en partie du soleil, il va donc être flexible, et en plus, il ne sera pas toujours exclusif. Mais chez beaucoup d'espèces, le territoire est de toute façon flexible. Il va changer selon la saison. Il va changer selon la densité des espèces. Alors, on a parlé tout à l'heure des hérons cendrés, hein, qui peuvent exploiter des champs et des mares pendant la journée, puis qui vont se montrer relativement jaloux lorsqu'ils ont une anguille qu'ils ont trouvée ou un campagnol qu'ils ont capturé, surtout si la densité des proies est faible. Mais ensuite, le héron va rentrer dans sa colonie où les hérons vont vivre groupés ensemble, notamment l'hiver ou encore pendant la saison de reproduction. On voit donc à travers cette espèce qu'il y a une grande flexibilité, une grande plasticité du territoire. On est donc très très loin de l'hypothèse centrale qui serait celle de l'utilisation d'un espace purement exclusif. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Par exemple, le champ n'est pas toujours le seul marqueur. Il y a évidemment des tas d'autres mécanismes qui sont possibles pour marquer le territoire. Prenez par exemple ce qui se passe chez les singes. Eh bien, chez les singes, le plus souvent, le marqueur passe par une exhibition qu'on appelle pudiquement en biologie thoraco-abdominale. Ça veut dire qu'on montre en fait une petite partie de son abdomen et pas tout à fait n'importe laquelle. On va montrer le pénis. Alors le plus souvent, ce sont des animaux, des singes terrestres qui vont faire ce marquage, mais on retrouve aussi ça chez beaucoup de singes arboricoles. Alors les singes terrestres comme le babouin, évidemment, vont faire une belle exhibition, oui, une belle exhibition du pénis qui en plus est d'une couleur remarquable.
Visible, très visible, effectivement.
Il est rouge, même le plus souvent, avec parfois les testicules bleus. Vous voyez qu'on ne fait vraiment pas dans le détail quand on est un singe.
Allez, mâle.
Voilà. On s'installe sur une roche ou sur un arbre, et puis on va écarter les jambes pour marquer ce territoire à partir de cette exhibition particulière du pénis, donc exhibition dite thoraco-abdominale. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il existe chez les humains un phénomène assez semblable. Je ne sais pas si vous y avez beaucoup pensé jusqu'à présent. Mais prenez, par exemple, la cravate. À quoi ressemble ce petit morceau de tissu qu'on exhibe autour du cou ?
Eh bien, voilà. Et les primates.
Si vous réfléchissez bien, c'est quand même étonnant de voir les mâles humains sans arrêt s'exhiber avec un espèce de petit morceau de tissu autour du cou qui finalement ressemble quand même à une ambiance terriblement phallique. Alors, ces marqueurs de dominance sont évidemment plus utilisés lorsque le territoire n'est pas tout à fait à côté de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on a une maison, on peut mettre un chien méchant, des tas de panneaux, des tas de choses pour indiquer la propriété privée. Comme chez les animaux, on va pouvoir évaluer le territoire à partir de marquages territoriaux particuliers. Et puis lorsqu'on n'est pas tout à fait en présence de cela, on va plutôt se balader avec une cravate ou en exhibant son pénis.
Oui, mais là, finalement, on parle de mâles. Et les femelles dans tout ça, elles n'ont pas des territoires non plus ?
Alors, d'après la biologie, le territoire, il sert à la fois à une vocation sexuelle qui est celle de s'emparer des femelles. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un darwinisme aigu. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même que les mâles puissent propager leurs propres gènes. Pour l'instant, les femelles, on va dire, elles n'ont pas une importance capitale dans l'idée biologique qu'ont nos contemporains.
Bien entendu, c'est pas vrai du tout. Les femelles ont évidemment un véritable rôle et vont vraiment se déplacer, on va le voir. Mais il est évident que la question, pour l'instant, telle qu'elle est posée, nous empêche complètement de nous orienter à la fois sur ce que sont les possibilités d'espace par les femelles. On voit que chez les femelles, comme chez les éléphants, c'était un espèce de domaine vital qui était là, une espèce d'endroit, d'espace fréquenté, puis c'est tout, mais pas marqué ni utilisé de manière exclusive. Et puis, en même temps, on s'aperçoit que chez beaucoup d'espèces, ça va beaucoup varier. Le rhinocéros, par exemple, va pas rester sur une zone. Il va glisser, le rhinocéros blanc notamment, il va glisser d'une zone à l'autre, et puis souvent, il va stationner tout simplement auprès d'un point d'eau, où là, il va augmenter ses chances de rencontrer une femelle.
Mais alors on voit que le territoire donc est une chose beaucoup trop variable pour finalement le conserver comme une propriété privée.
Tout à fait. Il va falloir prendre le problème autrement. Si on continue à chercher des bornes de territoire, des murs de territoire, des marquages et des éléments, on va finir par les trouver. Si on cherche de la dominance, on va finir par le trouver. Mais si la question ne se posait pas comme ça, si au lieu de chercher des propriétés privées dans la nature, c'est parce que les biologistes avaient cru au concept de propriété privée qu'ils l'ont appliqué à la nature, eh bien, évidemment, ça changerait tout. Et c'est très probablement ce qui se passe. Car en fait, si nous commençons à comprendre le problème d'une autre manière, nous allons d'un seul coup découvrir autre chose. La question qui va se poser pour nous, par exemple, c'est quelle est l'origine du territoire ? Alors, pourquoi se poser cette question comme ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'aperçoit bien que la variation est énorme. À chaque fois, les animaux varient dans leur utilisation de l'espace. Et puis parfois, ils ne se défendent même pas les uns contre les autres. Prenons par exemple la martre. La martre est un petit animal tout à fait sympathique et qui est tout à fait étonnant. Lorsqu'elle va tomber sur un cadavre de chevreuil, eh bien, la martre, qui d'habitude vit de manière plus ou moins solitaire, comme disent les biologistes, là encore, c'est un concept qui est très ambigu, on le verra, eh bien, cette martre va manger le cadavre. Mais si il y a une autre martre qui passe, elle ne va pas défendre le cadavre de chevreuil contre une autre martre. Il y a tellement à manger que tout le monde peut le partager. On voit très bien ici que le territoire va être d'abord quelque chose qu'il faut définir par rapport aux autres. Alors, si tous les canaux sensoriels sont utilisés, le chant chez les oiseaux, sans parler de la vision, le rouge-gorge il se met en évidence, le marquage olfactif, d'autres mécanismes, le marquage visuel, comme on vient d'en parler chez les singes, on se demande un petit peu comment il se fait que tous ces secteurs particuliers, tous ces éléments particuliers, peuvent réussir à exclure les autres. Pourquoi est-ce qu'on passerait tellement de temps, finalement, à essayer de s'approprier un domaine au prétexte que les ressources y seraient intéressantes, alors qu'on s'aperçoit très bien que les ressources jouent un rôle qui est beaucoup moins clair dans l'utilisation de l'espace que ce qu'on pourrait penser chez les animaux.
La martre ou marthe habite les grandes forêts, surtout celles des conifères, mais aussi les forêts de plaine assez étendues. Elle aime les futaies, non la broussaille, et monte jusqu'à la limite des arbres. J'ai trouvé à côté d'une trace de martre sur la neige, au Jura, en janvier 48, un amas de fruits de gui, défait mais sans odeur. Le 27 décembre 1980, à environ 11h20, alors que j'observe deux écureuils à environ 20 mètres de moi, une martre apparaît. Elle les poursuit, les deux écureuils se séparent. L'un d'eux va se blottir dans un épicéa, le long du tronc à environ 8 ou 10 mètres de haut, et reste là sans bouger. Pendant ce temps, la martre a disparu, poursuivant l'autre écureuil que l'on entend pousser de petits cris. Puis, environ 45 secondes plus tard, la martre apparaît et grimpe à l'arbre où l'écureuil s'est réfugié et s'empare de lui, qui n'a pas bougé, toujours blotti et semblant paralysé. Il semble ne s'être aperçu de rien. La martre descend alors de l'épicéa avec sa proie dans la gueule et commence à le dépecer à terre. Mais elle s'arrête et s'enfuit en courant sur la neige, la proie toujours dans la gueule. Bien que la rencontre d'une martre soit au premier plan de mes espoirs lorsque je rôde en forêt, je n'ai fait le plus souvent que l'apercevoir de temps à autre, bondissant à travers une clairière, filant le long d'un tronc. Le plus souvent, soir et matin, et sans avoir la preuve qu'il ne s'agisse pas de la fouine. Je l'aperçus au Jura en guettant le chant du grand coq. Il faisait presque nuit et les éclairs d'un orage du printemps me la montrèrent courant sur le sol enneigé. Au Fracheret sur Grillon, au matin d'août, je lassais mes souliers devant le chalet et il faisait grand jour lorsque je vis une martre bondir dans l'herbe chargée de rosée. Elle paraissait très mince et dégingandée, sans doute à cause de son poil mouillé et collé. Elle disparut parmi les sapins et en la suivant, je l'aperçus encore plusieurs fois, puis la perdis après quelques centaines de mètres. C'est elle que j'ai représentée descendant d'un sapin isolé et touffu, Dans la pénombre, ses yeux luisaient d'un feu vert, un vrai diable. J'attendis qu'il fasse plus clair. Alors, en avançant, je perçus que les cris venaient d'un gros chêne. Et je vis une martre courant jusqu'à des branches, revenant tourner autour du tronc, puis repartir en proie à une grande agitation. Elle passa à un grand chêne, puis au taillis. Là, pendant plus d'une heure, je l'eus à 4 ou 5 mètres au-dessus de ma tête. Je la voyais rarement en entier, mais je pouvais étudier à loisir sa tête ou une patte à travers le feuillage. Appuyée à un tronc, je sentais ses mouvements dans mon épaule, et si elle se cachait trop, je secouais l'arbre pour la faire bouger. Elle était toujours aussi agitée, courant dans le branchage et ne cessant de pousser ses grognements, qui prenaient parfois le son du caquetage d'une poule violemment effrayée. Que signifiait cette agitation ?
Voilà.
Robert Hénard, 1948, Les mammifères sauvages d'Europe.
Voilà, magnifique texte sur un animal sauvage.
Effectivement, il est splendide. Vous imaginez un naturaliste qui cherche à suivre un animal si discret. D'ailleurs, toi Thierry, je sais que tu as encadré une thèse sur la martre. Est-ce que vous en aviez vu pendant ce type de travail ?
Alors oui, mon étudiant a rencontré une ou deux fois la martre, d'autant qu'il en capturait quand même pour les équiper de matériel radiotélémétrique. Pour ma part, oui, j'en ai observé plusieurs fois. J'ai même vu à un moment donné une chose tout à fait fascinante. C'était un engoulevent qui était fascinante pour moi, je ne sais pas
Engoulevent, les auditeurs ne savent peut-être pas.
C'est un oiseau et je ne sais pas si effectivement tout le monde s'intéresse forcément au cri ou à la vie de l'engoulevent. C'est un oiseau qui est tout discret, qui se cache au sol pour nicher et qui porte une tenue camouflée tellement discrète qu'en général on ne le voit pas. Eh bien, pour revenir à la martre, c'est précisément une martre que j'ai vue s'approcher un jour d'un engoulevent qui était posé au sol et que j'observais et qui était en train de couver ses nids. Donc son nid tout à fait discrètement, on le distinguait à peine, hein, il fallait vraiment l'observer à la jumelle. Et d'un seul coup, voilà qu'une martre approche. Alors évidemment, la peur qu'on a, c'est on se rappelle que la martre est quand même un prédateur et on se dit, voilà, elle va distinguer l'engoulevent et elle va l'emporter devant moi. Eh bien non, pas du tout, elle est passée à côté, soit parce qu'elle avait déjà mangé, qu'elle avait autre chose à faire, ou soit tout simplement qu'elle ne l'a pas distingué. Bref, c'est une des observations de martre que j'ai fait, mais c'est quand même souvent très discret et relativement court.
Effectivement, c'est intéressant de voir que ces espèces-là, les mustélidés, comme la martre, la fouine, le putois, on ne les voit pas facilement. Mais il me semble qu'à Paris, il peut y avoir quand même, même dans la capitale, des carnivores tels que la fouine.
En effet, il y a pas mal de petits carnivores sauvages qui se promènent sur Paris et sur sa banlieue. On trouve par exemple le renard qui maintenant commence à être bien connu autour de la ville, ou encore la fouine qui est plus discrète. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de fouines qu'il y a de chats errants, hein, c'est évident, et les pauvres sont en compétition permanente avec le chat.
Ou même que d'humains.
Ou même que d'humains, bien entendu. Mais cette petite fouine qui se place là, si elle est là, c'est aussi parce que les pressions dans le milieu naturel, dans les milieux de la campagne, se sont tellement exercées d'une manière forte, se sont tellement amplifiées que les animaux sont un peu obligés d'aller de plus en plus dans des secteurs de ce genre, dans des secteurs urbains. On est vraiment ici dans une situation particulière où les animaux de la campagne sont obligés d'aller en ville. Mais il n'y a pas qu'eux qui vont en ville. À vrai dire, si on regarde bien, la ville vient aussi à la campagne de plus en plus.
I hear the train a-coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating
from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
C'était Johnny Cash en concert à la prison de Folsom. Voilà un petit clin d'œil à une autre émission de Radio Libertaire, l'excellente émission Ras les murs du mercredi à 20h30. Bonjour Nicole, bonjour Jacques. Heureusement pour les animaux, l'espace ne se réduit pas à une prison pour chacun d'entre nous, où les autres seraient exclus en permanence ou plus ou moins en permanence. On vient donc de se rendre compte que si les animaux vivent leur promiscuité dans une structure d'odeurs, de champs et de paysages, si les marquages territoriaux sont autant de signalisations des activités, ils invitent aussi à tout un ensemble d'autres choses. Et c'est là que la présence de la femelle va commencer à être intéressante et réciproquement. Car mâle et femelle vont indiquer aux autres à quel endroit ils sont. Et évidemment, l'intrus va d'abord soit éviter l'endroit, soit au contraire, il va être invité à se présenter. Donc, les marques et les sons ne sont jamais placés ou diffusés en bordure d'un territoire ou en limite d'un domaine. En fait, plus l'animal est présent dans un secteur, plus le marquage sera intense. Ainsi, chaque animal va se promener dans un gradient d'odeur, dans un gradient de son, qui vont lui rendre le paysage plus ou moins familier. Le marquage n'a donc pas pour fonction première d'exclure les autres. Il s'agit bien plus d'un auto-marquage qui va rendre l'univers de l'animal familier à lui-même. Et cette ambiance va se dissiper au fur et à mesure qu'il va s'éloigner des zones d'activité intense. La fonction territoriale dérive donc bien plus d'un effet de familiarisation à son propre domaine. Pour les intrus, au contraire, plus ils vont se rapprocher de ces centres d'activité occupés par notre animal, eh bien moins l'intrus sera familier dans ses odeurs ou dans ses sons, et donc moins il se sentira chez lui. À partir de là, il va donc développer des rituels d'approche, ou bien se préparer à s'enfuir. Alors on voit bien ici que le territoire est une affaire beaucoup plus sociale et sexuelle qu'on le pensait, mais beaucoup moins propriétaire, beaucoup moins dans cette complaisance de propriétaire terrien qu'on pouvait s'imaginer. Social, parce qu'en déposant son parfum ou en jouant les troubadours, l'animal se présente aux autres, il dit même qu'il est de la même espèce, il dit s'il vit de telle et telle manière, et donc on peut voir qu'il y a une vie sociale très forte, même si l'animal vit de manière individualiste, et puis aussi sexuelle évidemment, puisque l'animal va pouvoir, à travers toutes ces indications sonores et olfactives, se présenter aux autres, que ce soit une femelle ou que ce soit un mâle. Le début de la séduction va commencer ici.
Oui, tu peux revenir sur ce que tu viens de dire, qui est la différence entre solitaire et individuel. Ça correspond à une nuance sémantique ou cela décrit une réalité biologique ?
Alors en effet, dans beaucoup de textes scientifiques, on s'aperçoit, que, notamment chez les anglo-saxons, qu'ils baptisent solitaire des animaux qui vivraient de manière un peu isolée. En fait, c'est facile de les considérer comme solitaires, mais dans la réalité, ce sont des animaux qui ont en fait des relations sociales très fortes. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être des sociaux ensemble, ce sont des sociaux indirects. C'est-à-dire qu'on va se séduire, on va s'oublier, on va élever ses jeunes, on va savoir où chaque individu est grâce à toute une série de balises sonores ou olfactives. Par exemple, quand le renard renifle un arbre, il reconnaît la carte d'identité qui est placée sur cet arbre. Par exemple, si Jules est passé par là et a arrosé cet arbre, il saura que Jules est dans le secteur et qu'il habite à côté du café, machin chose. De la même manière, évidemment, que si c'est Marguerite qui est passée. Parce que là aussi, évidemment, Marguerite va laisser son marquage. On voit qu'on n'est plus tout à fait dans l'hypothèse que posaient les biologistes, donc qu'on a énoncé en début de notre activité de critique, qui était celle d'une propriété privée, exclusive, défendue par des mâles dominants, qui empêchait les animaux de venir. Non, on est dans des séries de passages où chacun peut frapper à la porte de l'autre, on est dans des relations sociales. On voit donc que les espèces animales vont établir à travers justement ces petits marquages qui ne sont pas du tout déposés comme des bornes ou comme des murs, mais qui sont déposés au fur et à mesure qu'on a des activités. Quand la martre, par exemple, a une forte activité dans un endroit donné, eh bien, elle va laisser plus de ses crottes. De la même manière.
Oui, mais là, tu parles pour les mammifères. Quand tu parles de bornes, je vois bien pour effectivement les épreintes, qu'on dit crottes aussi pour les mustélidés, un dépôt. Mais pour les autres espèces.
Pareil chez les oiseaux, pareil chez les grenouilles. À partir du moment où l'animal a une activité particulière, il va utiliser des sons, toutes sortes de balises, des mécanismes olfactifs, des mécanismes visuels, pour simplement dire, eh bien, sur ce secteur-là, regardez, j'ai une activité importante. Mais il ne dit pas ça contre les autres. Il dit ça socialement. C'est-à-dire que lui, imagine par exemple la loutre. Alors la loutre a un territoire relativement grand, le long d'une rivière, où elle va déposer ces marques olfactives qu'on appelle des épreintes. Bon, c'est en fait des crottes, le plus souvent, mais arrosées par sa glande anale pour avoir des odeurs particulières. Odeurs tellement bonnes que même l'industrie du parfum essaie d'utiliser ces odeurs-là. C'est d'ailleurs le même cas pour l'odeur du putois, bien que son nom soit apparemment moins intéressant. L'industrie du parfum sait ce que ça contient. Bref, ces marquages, là on va parler de marquages olfactifs par exemple. Eh bien ces marquages olfactifs, l'animal les dépose parce qu'il est passé à tel endroit. Par exemple, la loutre est trop feignante, on va dire trop fatiguée, pour continuer à suivre le courant et elle a envie de s'arrêter au sol. Eh bien, elle va s'arrêter sur une petite plage et comme elle s'est arrêtée là, qu'elle s'est grattée, qu'elle s'est trouvée bien, elle va laisser un tout petit dépôt. Alors, quand on regarde les épreintes de loutre, c'est évident que c'est fait pour ça. Parce qu'une épreinte de loutre, c'est gros comme un tout petit ongle, alors que l'animal fait 9 kilos. Il ne s'agit donc absolument pas de fesses, il ne s'agit absolument pas d'un moment où l'animal a décidé de déféquer. Il s'agit bien au contraire d'un moment où l'animal a décidé de laisser son odeur. Il fera pareil autour de son gîte, pareil sous un pont, ou au contraire quand il va pouvoir atteindre un étang où il y a beaucoup de poissons. À chaque fois, ces balises vont servir en effet à l'animal à s'installer et à établir des relations indirectes avec les autres, mais aussi à essayer de les séduire. Alors évidemment, ces balises peuvent être parfaitement acoustiques. Chez les grenouilles, par exemple, on peut prendre par exemple le cas de la grenouille agile.
Ah oui. Effectivement, c'est...
Alors voilà la grenouille agile.
Peut-être que tu peux décrire un tout petit peu une grenouille agile pour nos auditeurs. C'est une petite grenouille avec une colorie... Tu peux
Alors c'est une petite... C'est une petite grenouille brune. C'est celle qu'on voit sauter dans les champs. Il y a un petit oiseau avec. C'est celle qu'on voit sauter dans les champs et que la plupart des gens appellent des rainettes. Dans la réalité, il ne s'agit pas vraiment de rainettes, c'est mais bien de petites grenouilles. Et on les appelle agiles parce qu'elles sont capables de sauter très 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 haut.
C'est un petit peu beige.
Voilà, elles sont beiges. Les mâles sont un peu plus petits que les femelles. Et on les appelle aussi grenouilles pisseuses. Parce que quand les gens les attrapent, elles ont souvent cette tendance incroyable à leur laisser un petit peu de liquide entre les mains, ce qui évidemment n'est pas forcément agréable. Mais cette grenouille, évidemment, au moment de la reproduction, elle va chanter. Alors là, il n'y a que le mâle qui chante. Donc vous voyez, ça semble coller un petit peu. Mais il chante une sérénade pour attirer la femelle. Il va bien sûr définir un lieu particulier pour essayer de plaire à la femelle, une zone centrale sur la mare, par exemple. Il va s'octroyer ce petit lieu-là, mais qui va servir de lieu de ponte pour la femelle. La femelle va venir et va pouvoir pondre là. Et chaque mâle connaît très bien le territoire de ses voisins, ce qu'on pourrait appeler le territoire circicéreux. Là encore que Jules chante à côté et que Riton n'est pas très loin. Bref, il chante au milieu de tout ça, et quand ce sont des voisins qu'il connaît depuis des générations, ou du moins depuis quelques jours, il faut se situer dans la vie d'une grenouille, ça dure 3-4 ans, donc faut pas non plus aller trop loin. En tout cas, quand il connaît bien son voisin, quand son voisin est familier, eh bien, le mâle va chanter beaucoup moins fort. Il a aucune raison de l'agresser, il sait que le mâle est là, qu'on est copains, bon, on va pas prendre un pot après, mais en tout cas, pour même cette période de reproduction, alors que théoriquement, d'après la biologie, on est en conflit pour laisser ses gènes, voilà que les mâles vont être beaucoup plus doux. En revanche, s'il y a un intrus qui arrive et que là, on ne le connaît pas, alors là, le mâle peut se montrer un peu plus vindicatif. Ce processus particulier montre évidemment que la zone où on est, eh bien, c'est quand même une zone où on a besoin d'intimité.
Ah oui, alors on imagine bien le gros mâle qui montre ses gros bras, mais toutes les grenouilles sur la mare chantent. Ou bien y a-t-il certaines qui font autrement ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors en effet, toutes les grenouilles ne chantent pas. D'abord, il y a les femelles qui viennent, qui s'intéressent à un mâle.
Alors,
et puis
les femelles, elles ne chantent pas chez
Non,
les
sur la mare, elles ne chantent pas. Elles viennent vraiment un jour pondre.
Non, mais elles chantent pour les amphibiens. Ça
non,
leur
non.
arrive
Chez les amphibiens, non. les femelles ne chantent pas. Voilà. Non, non, il y a D'accord. les mâles qui disposent d'éléments sonores.
Que
sonore,
les
mais
mâles
pas,
qui chantent.
Mais pas les femelles. Puis les femelles viennent beaucoup moins loin. Mais il faut se resituer aussi. Ces grenouilles chantent au cœur de l'hiver, enfin en février, fin janvier, début février. Ça veut dire qu'elles n'ont pas mangé depuis octobre. Elles sont en hibernation depuis octobre. Elles se lèvent. Elles vont marcher pendant quelques kilomètres pour rejoindre la mare où l'animal est né, et là sur cette mare, le mâle va pendant plusieurs jours chanter, toujours sans manger parce qu'il n'y a pas d'insectes à cette époque de l'année. Et donc il va chanter, elle, la femelle, elle sort de son hibernation, elle vient pondre et elle repart. Donc il faut qu'elle choisisse vite. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça très vite? Eh bien évidemment parce que sa physiologie est faible, elle va pas manger, elle est faible, or il faut qu'elle pompe des œufs bourrés d'énergie pour que les petits puissent naître. Donc une fois que la femelle va faire ça, évidemment, dès qu'elle arrive sur la mare, il faut qu'elle s'intéresse à un mâle. Et là, il y a deux possibilités. Soit on a les mâles qui vont chanter, souvent ce sont des grands mâles qui peuvent s'installer dans l'eau froide parce qu'ils ont assez d'énergie. Ils vont donc pousser des sérénades, ce sont les ténors. Et puis à côté de ça, il y en a d'autres qui vont appliquer une technique sans chercher du tout à avoir un territoire. Eux vont se promener un peu partout autour de la mare, ils vont être plus ou moins bruyants d'ailleurs. Ils prennent des gros risques, hein, parce que si un putois passe dans le secteur, la petite grenouille va se faire manger. Mais en prenant ces risques-là et en se promenant autour de la mare, eh bien, ils vont chercher à intercepter les femelles. Alors soit c'est un peu violent, hein, on saute sur la femelle et on reste sur elle tant qu'elle ne nous empêche pas d'y rester. Soit on est un peu plus doux et on essaie de s'accrocher à la femelle pour qu'elle aille pondre. Si la femelle, ça lui plaît ce mâle-là, elle va rester avec, elle va accepter qu'il ponde. Si au contraire, ce mâle-là va accepter pardon, qu'il féconde ses œufs, si ce mâle-là ne lui plaît pas puis qu'elle préfère un bon mâle chanteur un peu plus loin, bah, elle va se montrer beaucoup moins gentille, elle va aller sur le territoire du mâle et elle va le secouer un peu. Mais parfois, il peut y avoir deux paires pour la même ponte.
Oui, même quand on est grenouille, on le voit, ce n'est pas la même musique selon le voisin qu'on a.
Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit, tu vois. Quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau et je revois. Je revois Paulus, Mayol, les rois du music-hall. Dranem, Narquois, qui chantaient les petits pois. Sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Écouter le premier numéro de Chevalier. Vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau sur mon phono, mon beau vieux phono qui chante faux. Phono, mon bon vieux phono, comme autrefois. Quand j'ai le cafard, que les contrats sont rares, alors ma foi, je donne un tour de clé à son cœur de métal. Et de son côté, il me remonte le moral. Et même si je n'ai pour mon déjeuner qu'un petit sandwich, en écoutant son vieux son fêlé, je me sens plus riche. Et je suis prêt à mettre au clou ma montre tout et tout. Mais sûrement pas, je vous le dis tout haut, mon vieux phono. Et nous resterons jusqu'à la fin, unis comme les doigts de la main. Car mon phono, mon bon vieux phono, oui mon phono, mon bon vieux phono, qui a connu mes joies, mes chagrins, c'est mon copain.
C'était donc oui, Georges Brassens, mon vieux phono. Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans une émission Science en Liberté.
Eh bien donc, oui, Georges Brassens vient de nous expliquer que la musique avait beaucoup d'importance. Nous sommes toujours à travers toutes les recommandations que nous pouvons faire sur les animaux, toute cette explication sur ces exemples prodigieux de la nature, à la recherche de la compréhension de ce que c'est qu'un territoire. Et finalement, si un territoire est aussi éloigné de la propriété privée, on va commencer à concevoir combien nous nous sommes peut-être un petit peu trompés en imaginant les animaux comme nous les avions cru. En fait, le territoire est donc très sexuel. Et c'est aussi le lieu de l'intimité des rencontres, là où on apprend à se connaître. On a vu l'importance de la familiarité pour ne pas se fâcher. Par exemple, on voit très bien que chaque endroit qu'un animal va fréquenter, par exemple, on a beaucoup parlé de la loutre d'Europe, hein, ce grand mustélidé qui se promène sur nos rivières, eh bien, si ce mâle va se promener sur plus de 20 km de rivière à la recherche des endroits que fréquente chaque femelle, il va rester quelques jours avec chacune d'entre elles pour essayer de profiter un petit peu d'éléments un peu plus intimes, voire de copuler, et ensuite il reprendra sa promenade. Ici, la zone fréquentée par l'animal n'a rien à voir avec une propriété privée. Car la femelle, si elle ne va pas beaucoup bouger, elle va très bien s'attendre à ce qu'un autre mâle puisse éventuellement passer. Et ce jeune autre mâle qui va passer, eh bien, s'il lui plaît, hein, il va parfaitement avoir droit à tout cela. Alors les biologistes ont une théorie pour ça, ils appellent ça le best male mechanism, c'est-à-dire l'idée c'est que si c'est moi qui passe par exemple, la femelle elle va dire bon tant pis, c'est moi, on va faire avec. Mais si c'est George Clooney qui arrive derrière, là du coup elle va le préférer. Alors c'est une hypothèse qui laisse simplement dire que les femelles se trompent. Hein, en biologie on va le voir souvent, on va beaucoup pouvoir en parler.
Les femelles quoi ?
Les femelles se trompent. Les femelles sont des espèces de choses bizarres en biologie, dans lesquelles
la seule chose... Ne l'écoutez pas, chers auditeurs et auditrices.
C'est ce que dit la biologie. À chaque fois, l'idée, c'est que les femelles sont des erreurs, en quelque sorte, de la nature, et qu'elles font sans arrêt des erreurs. Alors, précisément, on va reparler quand on parlera de la sélection sexuelle, on voit à quel point le néo-darwinisme et le darwinisme sont idéologiques dans ces conceptions particulières des éléments territoriaux. Là, c'est pas du tout le cas. Ces animaux vont se promener. La familiarité va être la chose importante. Alors, c'est aussi très important parce qu'on comprend que ça va définir en fait la valorisation des autres. La familiarité, ça veut dire on reconnaît l'autre comme étant identique à soi, hein, on le reconnaît comme étant partie prenante, et là du coup ça va diminuer, ça va permettre de plus tolérer. Mais c'est pas que ça, ce modèle dit de la familiarité de type fratocentrique, c'est-à-dire que c'est la fraternité qui compte, oublie un petit quelque chose. En disant ça, l'hypothèse serait qu'on se défend toujours contre ceux qui sont différents de nous. Or en fait, on va voir petit à petit en biologie, hein, on prône cela, là, on est quelques chercheurs à essayer de prôner cela et à le découvrir dans les faits réels, qu'il y a un autre concept qui existe, c'est celui d'un modèle dit hétéronomique. C'est-à-dire que la relation de familiarité se construit avec, bien sûr, l'habitude, le repère et le paysage, mais pas seulement avec le fait que l'individu soit proche ou me ressemble. Bien au contraire, le problème n'est pas que celui-là me ressemble, le problème c'est qu'il accepte de ne plus m'agresser. En fait, on part au départ de l'hypothèse, quand on rencontre un individu, que ça peut être un intrus, que ça peut être difficile, mais si on s'entend bien, eh bien on peut rester amis. Et une fois qu'on se sera rencontré, qu'on se sera connu comme ça, eh bien l'amitié qui va se construire entre les animaux va construire leur relation sociale. Et quand je vous disais tout à l'heure, Jules sait très bien qu'il y a Riton qui est dans le coin et Marguerite qui est pas très loin, eh bien c'est parce qu'il a accepté, en quelque sorte qu'il soit dans le même secteur, que leur territoire peut se passer bien. Il y a parfois des combats, évidemment, quand on n'est pas d'accord, hein, ça arrive à tout le monde, mais la biologie a beaucoup trop insisté sur tous ces mécanismes au détriment de tous les mécanismes qui sont au contraire des mécanismes de solution des conflits, qui sont au contraire des possibilités de vivre autrement. On voit donc ici que la femelle n'est pas plus propriétaire d'un secteur que le mâle. Le secteur qu'on occupe, ce sont des endroits tranquilles où on ne sera pas dérangé, par exemple pour la mise bas, pour élever sa progéniture. C'est la femelle qui risque le plus le dérangement, et pourtant c'est souvent elle qui marque le moins la zone. On voit donc qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'on pensait être des marquages territoriaux et des possibilités de définir des zones exclusives que chacun utiliserait lui-même. La femelle de Martin Pêcheur, par exemple, va se contenter d'un simple terrier. Dans le terrier, elle peut chasser les importuns, s'ils sont trop pressants. S'ils ne sont pas trop pressants, eh bien, elle les laisse passer et tout peut bien se passer. Mais on voit bien que tout le processus territorial est d'abord un processus de vie sociale, d'organisation sociale, à tel point maintenant qu'on va même commencer à considérer que certains chercheurs, et c'est pas moi qui le dis, hein, certains chercheurs ont baptisé certaines abeilles anarchistes parce qu'ils se rendent compte que finalement elles sont beaucoup moins promptes à la réalité d'une hiérarchie absolue que ce qu'on pouvait croire auparavant. Et il y a beaucoup de groupes d'animaux, de singes notamment, mais aussi de mangoustes, dont on finit par regarder l'organisation comme étant libertaire. Alors voilà évidemment qui nous éloigne totalement de cette théorie qui était un petit peu bizarre, celle de l'hypothèse d'une propriété privée. Le territoire aurait été une propriété privée. Donc,
pour conclure tout cela, on peut se rendre compte que nous sommes de plus en plus loin de concevoir un mécanisme territorial qui soit qui inclut une exclusion, une volonté de perdre les autres et une volonté de combat, que ce soit pour le sexe ou que ce soit pour la vie sociale. Il s'agit bien au contraire d'un espace social dans lequel chacun ne s'oppose pas aux autres, mais au contraire essaye d'établir sa propre intimité. Il essaie de se définir son espace de liberté dans lequel il va inviter la femelle, le voisin, un autre mâle, ou la femelle va inviter un nouveau mâle, ou non, en fonction évidemment de la disponibilité des ressources. Mais la bataille n'est jamais nécessaire. On voit très bien que nous sommes ici dans une problématique tout à fait différente. Voilà, ainsi se finit cette émission.
Oui, et que penser par rapport, dans ces cas-là, à Homo sapiens ? Il y a encore bien des sujets de réflexion à venir.
En effet, on s'aperçoit bien qu'à chaque fois, on essaie de tirer des normes d'éléments naturels, d'éléments
alors
affirmés
qu'en fait,
comme biologiques.
C'est plus complexe, bien évidemment. Cette notion de familiarité, on l'a peut-être pour nous aussi en tant qu'hommes et femmes.
Tout à fait, la même question se pose à chaque fois. On cherche toujours des possibilités de vivre autrement. Et quand on regarde la biologie avec des yeux de curiosité, des yeux naturels, on n'est pas forcément plein de toutes ces hypothèses de départ.
De ces préjugés, peut-on dire,
mm-hmm. qui seraient de nous confiner cela. On s'aperçoit, comme on vient de le faire en analysant le concept de territoire, que voilà une chose qui paraissait très simple au départ et qui, en fait, ça peut s'aborder d'une manière beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait penser. Le territoire, c'est vraiment cet espace de liberté et d'intimité, et ça n'a rien à voir avec la propriété privée qu'on nous définit sans arrêt. Ainsi donc, on s'aperçoit que l'espace est structuré par les activités de toutes les espèces. Chaque animal va utiliser son territoire pour affirmer son statut de reproduction sexuelle, s'il le peut, et la dispersion dans l'espace va signifier beaucoup plus que l'usage de l'espace. À chaque fois, cette possibilité va construire ce qu'on peut appeler des affinités. Les animaux vont donc réussir à se construire d'affinités les uns avec les autres, et en fait, on est très très loin d'une conception qui va limiter les possibilités des relations, mais au contraire, on est dans une conception de l'espace qui est comme un espace dissymétrique, un espace de promesses qui va valoriser la différence des uns et des autres. Et en travaillant chaque espèce comme ça, à travers la compréhension de ce qu'est l'autre, évidemment, on va pouvoir construire ce que nous appelons, nous, des relations sociales. On est très très loin d'une propriété privée. Nous sommes ici dans une relation d'affinité et de construction affinitaire. Voilà.
Merci Thierry, c'est intéressant là.
Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, qui a été animée donc par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona
et Monique
à Paris. Le jingle qui introduit notre émission est une musique de Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur un morceau de Endodrome, Keren Chavez. Vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou alors par l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Je serai ravi de vous retrouver le quatrième lundi de chaque mois entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qu'elle porte. Au plaisir donc de se retrouver le 22 avril prochain. Bonjour à tous, bonne soirée.